Bonjour à chacun, il est 10h, je vous invite à prendre place. Merci.
Seigneur, parfois nous nous sentons perdus et plus rien n'a de sens. Mais tu es là et tu nous invites au banquet de la vie. Parfois nous nous croyons seuls et incompris, mais tu es là qui nous accompagne dans le tumulte de notre quotidien. Parfois même nous n'arrivons pas à nous croire aimés, mais tu es là, tu es celui qui aime jusqu'à la mort et au-delà. Oui, nous n'arrivons pas à nous croire appelés malgré ce que nous sommes. Mais Seigneur, tu es le Père qui aime, pardonne et accueille. Béni sois-tu, Amen. La grâce et la joie nous sont données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur, le Fils, et du Saint-Esprit. Seigneur, nous voici en ce jour rassemblés, jour de joie pour ton Église. Donne-nous ton Esprit comme tu l'as promis, qu'il se saisisse de chacune et de chacun de nous, et nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence et de ton amour. Je vous invite à vous lever et nous chantons le premier spontané.
Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, arranger ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, alléluia. Dieu nous rassemble, alléluia.
Je vous invite à vous asseoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce culte. Bienvenue à toutes et à tous, que vous soyez membres de notre paroisse ou que vous nous fassiez l'amitié de nous offrir votre visite. Faites que ce moment que nous passons ici, dans ce lieu particulier, soit un moment d'accueil les uns pour les autres, dans ce monde où ça devient de plus en plus difficile de respecter celui qui est différent, alors que nous sommes ici pour adorer celui qui est tout autre. Ce culte sera animé par Jean-Marc, Mathieu qui nous accompagne à l'orgue, et Pierre et Nicolas pour l'accueil. Les spontanés que nous chantons pendant une période de l'année tous les dimanches sont sur la petite feuille grise qui est au début de votre recueil Alléluia. Les cantiques du jour sont affichées et je vous les signalerai. Et la confession de foi que nous réciterons ensemble, si vous le voulez bien, est à la fin du cantique Alléluia sur un petit feuillet blanc. Je vous invite à vous lever. Prions. Seigneur, maintenant, nous voulons te louer et te rendre grâce. C'est vrai que nous sommes pauvres, estropiés, aveugles et boiteux. Mais pour nous, tu as donné ton Fils unique. Nous te louons. C'est vrai que tu nous as créés pour le meilleur et que nous sommes limités. Mais tu nous donnes ton souffle pour vivre, pour aimer et te louer. Nous te bénissons. C'est vrai que nous sommes orgueilleux et agités, impatients et révoltés. Mais tu es Dieu qui réconcilie le pardon et la vérité, la justice et la paix, nous te louons. C'est vrai que nous errons dans notre marche vers toi, mais c'est toi qui nous appelles, nous invites et nous attends patiemment. Nous te bénissons. Rappelle-nous jour après jour que nous sommes pécheurs et aimés. Que ton amour soutienne notre foi, que ton pardon nourrisse notre louange. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Amen. Et nous chantons le cantique 41-23. Rempli d'amour et de reconnaissance, nous t'adorons dans ta grandeur immense. Nous te louons, notre Dieu, notre roi. Nous te chantons du cœur et de la Seigneur, depuis les temps anciens, tu fais retentir une parole claire pour nous délivrer de nos illusions, de nos idoles et de nos servitudes. Mais nous ne la comprenons pas. Nous te remettons nos peurs et notre pauvreté. Nous rechignons à aimer notre prochain car nous sommes trop pleins de nous. Aie pitié de nous. Nous te remettons l'insuffisance de notre foi. Nous craignons de la partager avec notre prochain. Nous avons apprivoisé ton évangile. Nous l'avons limité aux dimensions de notre égoïsme. Aie pitié de nous. Nous te remettons notre propre aveuglement. Nous ne pouvons accueillir notre prochain comme tu nous accueilles. Nous sommes enfermés dans nos timidités. Aie pitié de nous. Seigneur, toi qui regardes toujours les causes en notre faveur, viens toi-même nous pardonner et nous rendre vivants devant toi et enfin disponibles pour les autres. Amen. Et nous restons assis pour chanter le spontané de tous mes maux. Je vous invite à vous lever pour entendre la parole de pardon. Seigneur, vis en nous et que ton esprit nous anime. Nous croyons en ta force qui vaincra notre faiblesse, en ta miséricorde qui lève notre misère, en ta vérité qui a confondu nos mensonges, en ta liberté qui a ouvert notre prison. C'est pourquoi le dernier mot à notre sujet ne sera pas le nôtre, mais le tien, celui de la grâce. C'est pourquoi l'Esprit que nous confessons est ton Esprit Saint. Ta grâce est avec nous dès maintenant et à jamais. Amen. Et nous chantons le spontané « Ô ma joie et mon espérance ». Restons debout pour écouter ce que Dieu veut pour nous. En partant de l'Épître aux Philippiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et nous chantons le cantique de ton esprit. Prions avant d'ouvrir les Écritures. Invoquer l'Esprit avant d'ouvrir les Écritures, c'est simplement demander que la Bible se mette à parler la langue de notre cœur. Seigneur, ta parole est une lampe, et pourtant nous sommes trop souvent sourds et aveugles. Des écailles nous empêchent de voir les choses comme tu les vois, d'entendre l'Évangile comme tu l'annonces, de recevoir la grâce comme tu la promets. Envoie ton esprit ce matin pour guérir notre regard, ouvrir nos oreilles, convertir notre cœur, et nous comprendrons l'invitation de l'Évangile et nous pourrons y répondre. Amen. La première lecture est dans le livre de Malachie, au chapitre 1, les versets au début de Malachie et les versets 4, 14, 2 et 10. Dans la Bible Second. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Vous saurez alors que j'ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. C'est ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères ? La deuxième lecture pour nous aujourd'hui, dans le lectionnaire annuel, est dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, les versets 7 à 13. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite saine, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Le dernier texte prévu pour nous aujourd'hui et sur lequel portera essentiellement la méditation est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, les versets 1 à 12. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique « Viens en cette heure ». On souffle du Dieu vivant.
Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur rassemble les hommes. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur n'en fait qu'un seul peuple. Au jour de Pentecôte, enflammant les apôtres, souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur emplit l'univers.
Je vous invite à vous asseoir. En lisant ces textes, je pensais à vous et je pensais qu'il vous fallait être courageux pour venir au culte ce matin. J'imagine les pensées qui vous ont traversées en les écoutant. Rassurez-vous, ce n'est pas en premier lieu de vous qu'il s'agit. En y regardant de près, c'est plutôt de moi et de toutes celles et ceux qui assurent des ministères religieux. Plus généralement, le monde a un problème avec la religion. L'antisémitisme est toujours vivace, la peur et le rejet viscéral de l'islam, la déconsidération du christianisme en Europe et la persécution des chrétiens en Orient. D'une manière ou d'une autre, toutes les religions se sentent stigmatisées. Et parallèlement, on constate dans le même temps une montée des fanatismes et des fondamentalismes d'un côté, et de l'autre, une désaffection religieuse de la majorité silencieuse. Et la progression d'une laïcité crispée qui tend à exclure toute expression religieuse de l'espace public. Oui, le monde a un problème avec la religion et avec les religieux. Et en lisant les textes du jour proposés pour ce dimanche, nous constatons que le problème n'est pas récent. Malachie, au 5e siècle avant Jésus, maintenant à vous, prêtre, cet avertissement, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit le Seigneur de l'univers, je lancerai contre vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Plus loin, le prophète parlera même d'imposture, de falsification de l'enseignement, de perversion de l'alliance. De son côté, Paul écrit aux Thessaloniciens pour se différencier de ceux qui, disent-ils, utilisent des paroles flatteuses avec des arrière-pensées de profit. En profitant et en abusant de leur qualité d'apôtre du Christ pour imposer leur autorité aux dépens de la communauté. La critique est la même dans la bouche de Jésus pour dénoncer devant la foule l'emprise malsaine et abusive des scribes et des pharisiens qui disent mais ne font pas. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui fermez devant les hommes l'entrée du royaume des cieux. Quel est le fond du problème ? Est-ce l'idée de la religion en soi qui est perçue comme dangereuse ? Ou alors, est-ce un certain discours théologique qu'il faudrait au minimum réformer, traduire, transformer ? À moins que ce ne soit les ministres des cultes eux-mêmes qui constituent le cœur du problème, avec leurs abus de pouvoir, leurs interprétations et leurs comportements inadmissibles. C'est sur cet arrière-fond anti-religieux qu'est née l'école laïque, portée par des protestants. En 1905, pour Ferdinand Buisson, qui était directeur général de l'enseignement primaire, l'école laïque doit devenir un lieu de libération des consciences au moyen de la raison pour refaire la société par l'individu, conquérir la République homme à homme, citoyen par citoyen, pour forger l'esprit public, la conscience nationale, l'âme de la France et de la République. Ambitieux programme. Et c'est malheureusement pour combattre cette liberté d'esprit que des terroristes religieux s'attaquent justement maintenant aux enseignants en France. C'est vrai, il arrive que la religion fonctionne de manière perverse. Mais est-ce la nature même de la religion qui est en cause, ou faudrait-il plus justement pointer un certain discours théologique qui pose problème ? Aux yeux de certains philosophes, tant que contemporains, la religion est violente parce qu'elle est prise dans le jeu du pouvoir et de la puissance. En effet, combien de fois le règne de Dieu n'a-t-il pas été synonyme d'un règne de terreur de nature théocratique ? Quoi de plus patriarcal et de plus hiérarchique ? Quoi de plus autoritaire, de plus inquisitorial, misogyne ? L'humain, créature de l'Éternel, est méprisé, oublié. Et regardons dans notre jardin. Calvin, notre maître, fera mener Michel Servet au bûcher pour une controverse sur le dogme de la Trinité. Sébastien Castelon, exilé lui à Bâle, écrira « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. » Pour sortir de la théologie de la violence, il n'y a pas d'autre solution que de retirer à Dieu la toute-puissance et les attributs de pouvoir qu'on lui prête. En suivant les Écritures dans notre confession, l'Éternel Dieu n'est tout-puissant qu'en tant que Père. Impossible de dire qui est Dieu vraiment, mais comprenant au moins ce qu'il n'est pas. Il faut changer de discours sur Dieu pour quitter de l'être qui imposerait sa force. Car le Dieu de la religion et de la théologie forte est devenu une idole, une image gravée, un outil de pouvoir, une tyrannie hiérarchique. C'est avec cette image de Dieu que les hommes manient la force et la violence en croyant agir en son nom. Et ce faisant, ils se font Dieu à la place de Dieu. Et nous avons encore la preuve au Proche-Orient, avec toutes les victimes innocentes de tous les côtés, des décisions prises par leurs responsables respectifs au nom de celui qui est le Père Céleste. Cette mauvaise interprétation a le don de mettre Jésus en colère. Sainte colère, donc, de Jésus dans l'évangile de Matthieu, contre les tartuffes de tout poil. Ceux qui usent et abusent de la religion, comme d'autres usent et abusent de leur position dominante pour profiter des personnes qui se confient à eux. Et cela fait accuser les religions abusées d'être responsables à cause de ceux qui s'en servent pour assouvir leurs intérêts. On en voit malheureusement les effets dans cette actualité. Et je dis « ceux » parce qu'il s'agit le plus souvent de représentants de la gente masculine. Pourtant, à la suite de Paul, la théologie de la croix est clairement enseignée comme une théologie de la force faible. La seule théologie possible pour sauver le nom de Dieu de l'emprise du pouvoir et de la puissance. Et mettre la force de Dieu sur le terrain de la fragilité et de la faiblesse assumée. C'est bien de cela dont il est question dans l'invective de Jésus. S'adressant à ses disciples, autant qu'aux foules et donc à nous, Jésus s'emploie à démonter les ressorts internes, à dévoiler le fonctionnement humain pour nous apprendre à discerner d'où vient le danger. Assis sur la chaise de Moïse, ils abusent de leur autorité et de leur loi pour culpabiliser leur proie et asseoir ainsi leur pouvoir sur elle. Ils disent et ne font pas, tandis qu'ils exigent de vous une perfection et une pureté. Paul, après Jésus, fustige cette manière qu'ont les hommes d'être obnubilés par leur image sociale, être vus des gens, être assis au premier rang dans les synagogues, les temples et les églises, être appelés maître, docteur ou rabbi. Les autres n'existent pas véritablement à leurs yeux. Par sa critique féroce de tous les hypocrites, l'évangile de Matthieu fait œuvre salutaire pour la foule et pour les disciples. De la même manière que l'on peut penser que la laïcité offre un garde-fou salutaire à la société face aux tentations hégémoniques des religions. Dès lors, le seul remède envisageable consiste à nous délivrer de l'emprise en appliquant la séparation et la balance des pouvoirs. Ce principe fonde le choix de la séparation de l'Église et de l'État en 1905 en France. L'Évangile emprunte le même chemin libérateur. Pour comprendre le problème, il faut se garder de simplifier la question. Comme pour l'alcool, ce n'est pas la nature de la religion qui est en cause, mais bien son usage. Mais je suis convaincu que si ce sont les représentants de toutes les religions qui sont en première ligne dans les textes entendus, c'est aussi de nous toutes et tous qu'il s'agit aujourd'hui. Et ce pourrait bien être de nous qu'il est dit, car ils disent et ils ne font pas. Oui, et vous, nous dit justement Jésus. Le seul moyen de se prémunir consiste à trouver notre juste place et à essayer de garder présente à l'esprit un des principes fondateurs de la réforme. Dieu seul est Dieu, soli deo gloria. La place de Dieu n'est pas vacante et aucun être humain n'a autorité pour être sur le trône du Maître. Personne devant qui plier le genou, personne pour plier le genou devant nous. Reconnaître la place de Dieu ne se fera pas sans la religion, car d'une manière ou d'une autre, si on ne lui oppose pas un frein puissant, l'être humain va toujours chercher à prendre la place du Père. Mais précisément, comment nous est présenté l'Éternel Dieu ? D'où l'apostrophe de tous les responsables religieux qui portent une responsabilité alourdie dans ce domaine. Jésus interpelle tous les pasteurs en les ramenant vers la notion de service. Qui es-tu en train de servir ? N'es-tu pas en train de te servir de la religion pour te construire une image idéale de toi en abusant de l'autorité que je t'ai confiée ? Jésus nous ramène donc au cœur du problème en dévoilant sa dimension spirituelle. Le problème n'est pas le pouvoir en soi, ni la religion en soi. Le problème est dans le cœur de l'homme qui cherche à prendre la place de Dieu, alors que l'Éternel Dieu, que nous appelons Père, s'est fait homme pour nous rappeler la propriété du souci de l'autre et de sa vie. Paul nous le recommande. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et donc, nous avons entendu Jésus nous adjure encore ce matin. Vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car vous n'avez qu'un seul chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Parole de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 21-09, les strophes 1, 2 et 3, page 238.
Et d'espérance. de foi, d'amour et d'espérance. Viens établir sur nous ton règne et nous soumets à ton amour pour vivre ainsi que tu. De foi, d'amour et d'espérance.
J'invite ceux qui le peuvent à rester debout pour que nous récitions ensemble la confession de foi numéro 2 à la fin de notre cantique. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie, salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Et nous chantons le cantique de la confession. Mon seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, à vous asseoir. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es venu dans le monde avec Abraham et Ésaïe, tu viens encore avec Jésus-Christ devant les disciples montrer ta vraie figure. Et tu veux à sa suite nous faire porteurs de la bonne nouvelle. Pourtant, Seigneur, nous voulons crier à toi avec toutes les femmes et tous les hommes qui sont aujourd'hui toujours plus dans la détresse. Pour les exilés et les réfugiés, avec les chrétiens et tous les croyants persécutés pour leur foi, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les peuples victimes de la guerre, avec ceux qui souffrent de faim et de misère, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les étrangers renvoyés dans leur pays déchiré, avec les travailleurs de notre pays qui craignent pour leur avenir, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. avec les jeunes et avec leurs parents inquiets pour l'avenir, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les personnes âgées mises à l'écart, avec les malades victimes du manque de soignants, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec nos amis et nos proches frappés par l'épreuve, et devant notre incompréhension et notre impuissance, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne véritablement. Que notre prière se prolonge par des actes, que ton amour illumine nos actions afin d'apporter un témoignage de paix et un signe de joie. Amen. Donne maintenant, Seigneur, à notre prière la profondeur des paroles que Jésus lui-même nous a laissées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici le moment de l'offrande. Ce temps fait véritablement partie du culte. Le livre de l'Exode nous rappelle que tout homme dont le cœur est bien disposé apporte son offrande à l'Éternel. Père, accepte notre offrande. C'est pour nous l'occasion de te manifester que notre cœur et notre âme ne te suffisent pas. Les bonnes intentions appartiennent au domaine idéal de l'amour gratuit et des bons sentiments. Pour toi, l'important, c'est le souci de l'autre. Mais il faut y ajouter l'offrande matérielle de notre avoir que nous te devons. Notre attachement à toi se manifeste aussi dans le réel. Oui, Père, accepte notre offrande. C'est de toi que viennent tous les biens. Amen. Et voilà le moment des remerciements. D'abord, des remerciements à Mathieu, qui anime ce culte avec moi ce matin et qui a fait sonner son orgue d'une manière joyeuse. Ça fait penser à certains Noël. Et pour parler de la force faible, rien de mieux que de parler de penser à Noël. Nous remercions Pierre et Nicolas à l'accueil.
Et Florence.
Oh ben, désolé. On est trop gâtés, en fait. Et je laisse la place à Pierre pour les annonces.
Merci Jean-Marc pour tous ces mots si importants que tu nous as transmis. Merci à chacun d'être ici ce matin. Merci pour les fleurs aussi, c'était toujours très agréable d'avoir des belles fleurs sur la table. Aujourd'hui, Vincent n'est pas là, notre pasteur, donc il est à Bellegarde, donc c'est dans le cadre de la solidarité du consistoire. Voilà, parfois notre pasteur, eh ben, il va aider d'autres paroisses. À Bellegarde, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de pasteur, et ils sont certainement très contents aujourd'hui d'avoir un culte. Dimanche prochain, c'est le synode à Vaugué. Donc, c'est Vincent et Francine qui seront nos représentants. Donc, et ici, il y aura un culte, bien entendu. Mais voilà, c'est des moments importants dans notre Église. Généralement, il y a deux rendez-vous. Au mois d'octobre, il y a les présidents et trésoriers qui se retrouvent pour une journée de formation et d'information. Et puis, donc le deuxième dimanche de novembre, il y a toujours ce rassemblement régional à Vaugué, où il parle de ce qui est important pour notre Église. Dimanche prochain, je reste à dimanche prochain, il y aura le chauffage dans notre église. Voilà, peut-être que vous l'auriez apprécié aujourd'hui, mais voilà, donc il sera mis en place dès dimanche prochain. Je voudrais m'excuser pour mercredi, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont venus à la prière ce mercredi, et moi j'ai complètement oublié de venir. Donc j'espère que personne s'est trouvé devant une porte close. Voilà. Bon. Sinon, que vous dire? Cette semaine, donc mardi, il y a la chorale qui reprend. Mercredi, il y aura la prière à 18h et il y aura quelqu'un. C'est sûr. Une petite information que j'ai vue dans le journal Réforme de cette semaine, c'est un grand encadré en rouge, et il y a le journal Évangile et Liberté qui cesse de paraître. Voilà, donc c'est fort dommage, surtout dans le sens que Jean-Marc a dit tout à l'heure, de changer son regard sur Dieu. Là, c'est un bon moyen de changer son regard sur Dieu. Mais quand même, les idées du journal seront continuées à être propagées avec le site internet. Mais voilà, le journal papier disparaît, par contre. Voilà. Et puis, une dernière annonce, les amitiés judéo-chrétiennes. Donc, ce mois-ci, c'est le 15 novembre. Et cette année... Le thème, c'est les figures marquantes de faiseurs de paix. Donc, il y en a bien besoin en ce moment. Et donc, le 15 novembre, on va nous parler de Rachi. Voilà. Donc, si vous voulez savoir qui est-il, eh ben, il suffit de venir aux amitiés judéo-chrétiennes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Et ben bon, bonne fin de culte.
Merci Pierre. Je vous invite à vous lever. Dans le contexte actuel où partout dans le monde, l'humain est impitoyablement broyé pour des projets religieux, politiques ou financiers, les Écritures nous interpellent particulièrement aujourd'hui. Vous saurez, alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'injustice ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et la droiture. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Il nous est donné de recevoir avec le Christ ressuscité le rappel du respect absolu de la vie. Choisis la vie afin que tu vives, nous commande déjà le Deutéronome. La miséricorde, le pardon, le soin de tous les frères et sœurs que l'Éternel nous donne doivent passer avant les intérêts imposés par les responsables humains. À ce prix, le royaume est mystérieusement en route. C'est cela que l'Église peut annoncer et pratiquer dans le monde. Vous avez entendu la parole du Christ ? Écoutez-la. C'est un ordre de marche, de mission. Ouvrez-vous à sa parole, vivez de sa parole, mettez-la en pratique. Et allez maintenant témoigner de cette confiance et de cet amour dans le monde. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, vous bénisse et vous garde. Que le pardon, la paix et l'amour vous soient donnés en abondance. Allez dans la joie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous chantons le dernier cantique du jour. Tu nous appelles. Et bonne semaine sous le regard de notre Père.
Pas changé d'avis?
Oh non, non mais...